Et puis, en ce qui nous concerne, eh ben, rendez-vous dans 15 jours, le 7 mars.
Et moi, je vous dis à samedi prochain.
Salut, merci.
Salut.
Bye bye.
Souviens mon néné adoré, le petit bouquet que vous la donne à moi. N'a longtemps que l'huile est fanée, si vie souvient comme ça les loin. Vie souviens mon néné adoré, le petit bouquet que vous la donne à moi. N'a longtemps que l'huile est fanée, si vie souvient comme ça les loin. Petite fleur fanée, petite fleur aimée, qui a moi toujours, quoi que c'est l'amour. Vie marchait dans la forêt, il faisait bon, il faisait frais. Dans les herbes n'avait la rosée, dans le ciel, oiseaux y chantaient. Puis ça, le temps l'a passé, il ne reste plus qu'un doux souvenir. Quand m'y pense, mon cœur est brisé, tout ici bas comme ça, il doit finir. Petite fleur fanée, petite fleur aimée, tiens-moi toujours. C'est l'amour.
Et les jeunes, pour nous, c'est très important. Parce que certains ne se rendent pas compte de ce qui les attend. Hélas, on a bon de parler autour de nous. Ça fait mal, mais il faudra du temps pour qu'ils comprennent. Peut-être pas tant que ça, parce que Macron ne va pas leur laisser beaucoup de temps, je crois.
Je me retourne vers Christian. La première fois que je t'ai vu, tu étais en train de te faire bousculer par un flic.
Oui.
Et tu lui as fait la leçon.
Oui.
Tu étais son aîné. À ce policier, tu lui as dit « Non, mais attendez, moi du maintien de l'ordre, j'en ai fait avant vous, je sais ce que c'est. Et ce que vous faites, c'est odieux. Et moi, ce qu'on m'a fait faire pendant la guerre d'Algérie, hein, on avait plus de respect pour les gens pendant la guerre d'Algérie que ce que vous faites là sous Macron. »
Oui, tout à fait. Alors qu'effectivement, il n'y avait aucun journaliste, il n'y avait pas tellement de témoins. Et on aurait été libre de faire n'importe quelle saloperie. Mais nous, les jeunes du contingent, il y en a bien sûr, malheureusement, qui ont dû faire des saloperies, mais dans mon entourage, il n'y en avait pas.
Toi, à 20 piges, hein, de 1960 à 62, on t'a envoyé faire le guignol en Algérie, encore française à l'époque.
Oui, tout à fait. Hein. Je ne suis pas fier de cette guerre-là, parce que c'était malgré tout une guerre coloniale. C'est ce qui me gênait. C'est sûr que j'aurais été plus fier si j'avais fait celle de 39-45. Mais enfin, les os me feraient encore plus mal, alors j'y tiens pas trop. Hein.
Cette guerre d'Algérie, t'as fait ta vie d'homme après, quand t'es rentré en France en 62 et machin, c'était compliqué d'en parler. Et finalement, tu en reparles peut-être depuis une dizaine d'années. Mais ce que tu me disais l'autre jour, c'est que c'est finalement la violence initiée par Macron qui t'a fait remonter des espèces de poussées d'adrénaline de la guerre d'Algérie quand t'étais appelé.
Oui, tout à fait. Je ne peux pas admettre la façon dont se comporte la police. Et bien sûr, ils ont des consignes pour se comporter comme ça. Mais dans un pays comme la France, je ne peux pas l'admettre. Étant donné que moi et mes camarades proches, on n'a jamais fait d'exactions de ce genre. Mais il est vrai qu'on était un petit peu ignorants, on ne savait pas trop ce qui nous arrivait.
C'est ce qu'on appelait les petits gars du contingent. Puis oui, t'avais quoi, 22 piges, 20 piges, 22 piges.
Ah ben, quand je suis parti, j'avais 19 ans. Hein. Je suis revenu à 22 ans. Hein.
Ce que je trouve fascinant dans ce que tu m'as raconté, c'est que c'est finalement la violence de 2019-2020 qui t'a fait des remontées de violence de 60-62.
Oui, ça m'a mis profondément en colère. Je l'ai exprimé d'ailleurs, il y a un des flics qui m'a accusé de les avoir insultés. C'est archi faux. Parce que c'est pas du tout mon genre, j'ai l'éducation à l'ancienne, c'est pas mon genre. Mais par contre, c'est vrai que j'ai haussé le ton et je leur ai bien dit ce que je pensais, que j'étais effectivement un ancien combattant, même si j'en suis pas fier, je me répète peut-être.
On t'a pas demandé ton avis non plus quand t'étais gamin, hein. Il y avait pas le choix. Hein.
Tout à fait. Mais jamais j'ai vu une violence pareille, et c'est pas admissible. Je vais avoir 80 ans cette année, je ne peux pas accepter des gens qui me rentrent dedans, qui sont blindés, ce sont des vrais blindés en face, ils nous rentrent dedans à toute vitesse comme des brutes épaisses qu'ils sont, alors que nous on repoussait les gens avec quand même une correction, je dirais. Pourtant on avait des gens beaucoup plus violents en face, hein, avec serpes, hachettes, piquets de clôture... Et des gens, des immeubles qui nous... Ça m'est arrivé une fois, quelqu'un qui nous tirait dessus au PA pour que nous, on tire sur la foule. Hein. Augmenter encore ce climat de violence, en quelque sorte, c'était ça le but. Quoi. Et ça, ils ne l'ont pas vécu. Alors je leur ai dit, là, je leur ai dit, mais vous devriez avoir honte de vous comporter comme ça, parce que nous, on a vécu autre chose et on avait un meilleur comportement que vous ne pouvez avoir. Hein.
Tout le monde déteste la police.
Bonjour Marc.
Bonjour.
C'est pas un panneau que t'as, c'est un roman.
Macron, gouvernement élu.
Macron, gouvernement élu, LREM.
Ah oui, c'est-à-dire l'ensemble aujourd'hui des gens qui décident, ce sont des bonimenteurs, c'est des camelots. Ils ont un bagou. Et en plus, j'ai ajouté prévaricateur, parce que j'estime qu'ils ne sont pas à la hauteur de leur mission. Et ce sont des élus, ce sont des gens qui sont là pour améliorer le sort des gens. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, bah, c'est l'inverse. Ils sont pas dignes de leur mandat. LREM, la racaille, en mission. C'est-à-dire c'est vraiment un bulldozer qui a comme mission de réduire tous les avantages acquis.
Mission, ça veut dire qu'ils ont un job, que Macron et ses sbires ont des patrons, en fait. Tu sous-entendrais que ces gens-là sont des larbins du capital, peut-être.
Ils ont une idéologie, qui est le libéralisme.
Si LREM, la racaille, en mission, oui, oui, mission, ça veut dire qu'on leur a confié une mission. Qu'attention, tu verses dans le complotisme, tu vas peut-être nous dire bientôt que les riches nous veulent du mal.
Ils veulent avoir encore plus de profit. C'est une idéologie. Macron, qui est issu de cette idéologie, qui a été formée depuis sa plus tendre enfance, et qui a baigné dedans et qui a même travaillé dans la finance et autres, il met en application, il renvoie l'ascenseur à ceux qui l'ont jusqu'ici mis au pouvoir. Quoi. Donc à la fois, lui, il est probablement convaincu. Voilà, il est issu de ce milieu-là, donc il ne peut pas comprendre. Il y a toujours des beaux discours. Alors en plus, lui, il a cette faculté intellectuelle et dialectique de pouvoir dire tout et son contraire dans la même phrase. C'est un beau parleur, avec une activité intellectuelle brillante. Au final, il est le larbin, effectivement, d'un système dont il profite et dont il vit. Hein.
Je sais pas ce que les gens vont le trouver brillant. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours trouvé médiocre et tâcheron, mais peu importe. Là, on a parlé du recto de ton panneau. Ouais. Et maintenant, passons au verso. Et là aussi, il y en a une sacrée tartine.
Alors, le verso, d'abord, je l'appelle monsieur. C'était ce qu'on utilisait au temps de Louis XIV, quand on voulait se moquer. Voilà. Donc, on disait, on insistait sur le monsieur. Je le considère comme, effectivement, comme un petit peu côté royal. Quoi. Alors, Macron, même si vous aviez raison, je dirais quand même non à tout ce que vous dites, parce qu'on ne constitue pas une société humaine, et effectivement il a utilisé ce mot d'avoir plus d'humanité, on ne construit pas une société humaine sur un monceau de blessés, de mutilés et de voire de cadavres. Parce que depuis quand même qu'il est au pouvoir, tant de blessés, de gens estropiés, de gens éborgnés, tout ça. Donc même s'il avait raison, je lui dirais quand même non. Parce qu'on ne peut pas massacrer des gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec sa politique. Et ça, c'est absolument inadmissible.
Qu'est-ce que tu fais, Marc ?
À la retraite.
C'est scandaleux quand je te vois plein de jus et de verve comme ça. Je me dis que Fillon et la droite avaient raison. Macron, quand je vois tout le jus qu'on pourrait encore tirer de toi.
C'est bien hein, parce qu'on a eu une protection sociale après de longues luttes qu'aujourd'hui, on peut arriver à la retraite encore en bonne santé. C'est grâce à tout ça. Et aujourd'hui, eh bien non, on est en train de remettre tout ça en cause. Ça veut dire que si aujourd'hui je suis encore en capacité de pouvoir venir manifester et donner mon opposition, c'est parce qu'effectivement, on a réduit du temps de travail, on a amélioré les conditions de vie, donné plus de congés, permis de pouvoir abaisser la retraite de 65 ans à 60 ans. Eh bien, c'est le résultat de tout ça. Et c'est normal. On est dans une société qui produit beaucoup de richesses, beaucoup plus qu'elle n'a jamais produit jusqu'ici. Il est normal que les êtres humains en profitent. Voilà.
Natacha, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que t'as marqué dans le dos ? Attends, je te dis, parce que c'est dans ton dos. Halte à la croissance, produisons moins, travaillons moins longtemps.
Au début, la lutte des retraites, moi je me sentais pas tellement concernée parce que je me sens plutôt concernée par tout ce qui touche aux impacts environnementaux de notre activité actuelle. Je me dis que la retraite, de toute façon, j'en aurai même pas parce que ça se trouve, ça sera juste la merde quand je serai vieille. En fait, après, j'ai lu un article sur Reporter, un article signé de François Ruffin. Et en fait, il expliquait bien les enjeux du combat des retraites, un combat contre la place actuelle du travail dans notre vie et l'aliénation où il faut absolument avoir un travail, même si ce travail est délétère pour la société, ce qui est le cas de beaucoup de... Et j'ai réfléchi aussi et le problème, c'est pas tellement le problème du financement des retraites, c'est le problème de répartir l'argent différemment. Enfin, je me suis dit que ces deux combats-là étaient tout à fait compatibles et c'est pas seulement qu'ils sont compatibles, mais ils sont indissociables finalement. Et donc voilà.
Tu fais quoi, toi ?
Là, je fais plus rien parce que justement, je trouve ça difficile de trouver un travail compatible avec mes convictions et du coup, je suis en période de réflexion.
T'as fait des études ?
Quelques études que j'ai pas terminées et là, je m'intéresse à la permaculture à présent.
La propagande qui dit vous n'aurez pas de retraite. Moi, j'ai appris ça sur les bancs du collège dans les années 80. On te le met dans le crâne dès l'école et après les médias dominants reprennent. Et c'est toute une déconstruction. Enfin, t'as dit un truc qui est fondamental, c'est que c'est pas un problème de pognon. La France est toujours 7e puissance économique du monde, donc de l'argent, il y en a. Mais c'est le cheminement pour sortir de cette propagande, de ce schéma mental de « vous n'aurez pas de retraite parce qu'il y a trop de vieux ». Toi, comment t'y es venu, toi ?
Petit à petit, en lisant d'autres médias que les médias, enfin, notamment Reporter, et puis en réfléchissant par moi-même aussi, en me disant qu'il y a tellement de choses que je trouve incohérentes dans le système actuel. Enfin, il suffit de regarder autour de soi, il y a tout qui s'écroule et on fait comme si on voyait rien, on veut juste continuer dans la même direction alors que ça marche pas. Enfin, je sais que le gouvernement, il a déjà pas mal menti. Par exemple, dans la réforme du lycée, je vois bien comment ils mentent, donc enfin, j'ai confiance en absolument rien de leur part.
Attention, Natacha, tu vas verser dans le complotisme.
Disons que j'essaye de m'informer avec des moyens indépendants et...
Enfin, écoute, travailler moins, se reposer plus, produire moins, c'est pas bon pour l'emploi, c'est pas bon pour... C'est gauchiste.
Oui, ça fait gauchiste. Je suis assez fière de ça, d'ailleurs. Je pense pas que l'emploi doive être au centre de nos vies. Et notamment, par exemple, les vieux qui ont des retraites très faibles, je pense qu'ils vivent aussi très mal parce qu'il y a la destruction des services publics et tout ça, et que peut-être s'il y avait des services publics de proximité et tout ça, une retraite pas trop élevée, on la vivrait mieux si tout était plus simple. Parce que là, actuellement, en fait, il faut toujours payer pour accéder à un service. Si c'était réparti différemment, la richesse, on n'aurait pas à payer pour tous ces services.
Ça fait juste penser avec nostalgie à quand j'étais petit et où on était encore des usagers de services publics et pas des clients de la SNCF, de la Poste. Toi, t'appartiens à la génération où on t'a transformé en cliente.
Exactement. La dernière fois, j'ai pris le train. Il y a quelqu'un qui m'a parlé. Elle m'a demandé quel prix j'avais payé pour aller dans le TER. Donc, je lui ai montré mon billet, mais il était moins cher parce que j'avais une carte. Et cette personne-là, elle n'avait pas de carte bancaire sur elle. Elle voulait acheter un billet de train. Et en fait, la boutique était fermée parce qu'elle ouvre à 10h le matin. Et cette personne, donc il était 9h, elle voulait monter dans le train. Elle ne pouvait pas acheter son billet aux automates puisqu'elle n'avait pas de carte bancaire. Elle n'avait que du liquide. Donc, elle a dû payer dans le train. Moi, mon billet, je crois que je l'ai payé 20€ avec ma carte de réduction et lui il a payé 60€ parce que en fait il n'y avait pas de service public, en fait, d'endroit où acheter son billet à l'extérieur du train. Le système marche sur la tête.
Travail, consomme et ferme ta gueule. Travail, consomme et ferme ta gueule.
Anaël, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui est marqué sur tes panneaux ?
Là, sur ma pancarte, il y a écrit « Nous, 2000 vaincrons ». Bah, soyons optimistes et faisons-les battre en retraite. Là, on est vraiment mobilisés depuis le 5 décembre contre la réforme des retraites pour défendre notre système de retraite, notre protection sociale. Et c'est indispensable de se dire « Le pouvoir est dans la rue et il faut qu'on se bouge et on peut les faire plier ».
t'as plusieurs panneaux. Hein.
Il y a écrit « Prof en grève » pour montrer aussi que le personnel de l'éducation nationale est bien mobilisé. À côté de ça, on défend également les services publics, avec notamment une opposition farouche à la réforme du lycée qui vient dégrader nos conditions de travail et surtout la condition de travail des élèves. Donc on lutte un peu sur tous les fronts contre la réforme des retraites et contre la réforme du lycée.
Ah, les profs, jamais contents, toujours en grève, toujours en vacances, 16 semaines de vacances, et vous râlez en plus. Et en plus, je suis sûr que t'es payé double pendant tes jours de grève, toi.
14 journées de grève, évidemment, ne seront pas payées, et les réformes s'enchaînent, et des réformes, et le fond, c'est toujours le même, on cherche à faire des économies, on a toujours plus de gamins en classe, toujours moins de moyens pour les encadrer, et que forcément, c'est les élèves les plus fragiles qui en pâtissent, et on en a vraiment marre d'être méprisé, d'être malmené. Et derrière, il faut bien voir que c'est dur d'être prof. On est 18h, 20h, 21h devant 35 ados qui sont en souffrance pour certains. Et on n'a pas assez de moyens humains. On n'a plus, par exemple, au lycée, de cours en demi-classe. Pour la plupart ont été supprimés. Et donc, on travaille moins bien, on les forme moins bien. On a une réforme qui nous oblige à faire plus de programmes en moins d'heures. Et on n'est pas là pour gaver des doigts, on est là pour les faire réfléchir, pour leur apporter un esprit critique. Et on a comme l'impression que l'esprit critique, c'est pas ce qu'on recherche trop dans l'éducation nationale, et c'est bien dommage.
Tu rigoles ou quoi? Tu voudrais enseigner aux gens à réfléchir? Tu veux pas leur faire étudier l'histoire, celle de la Révolution française, par exemple, des fois que ça leur donnerait l'idée de faire un parallèle, non?
Ben surtout, moi, je suis prof de sciences économiques et sociales. Je parle de l'économie, de la société, de la science politique. Ben, les économistes, ils ont des théories, mais qu'on peut aussi les critiquer, ces théories. Et que la sacro-sainte croissance, bah en fait, elle est plus que critiquable et qu'il faut réfléchir, prendre du recul, penser le réchauffement climatique qui est juste dramatique et qu'à un moment donné, il faut du temps pour que les gamins puissent digérer les connaissances et se dire mais pourquoi on fait ça? Est-ce qu'on veut ça? Et donc oui, je veux faire réfléchir mes élèves et ça prend du temps. Et tant pis s'ils n'ont pas toutes les définitions, mais ils auront peut-être, je l'espère, un peu d'esprit critique, c'est l'objectif quand même.
Il y a un truc dont je me suis souvenu avec ce mouvement contre la continuation de la destruction du système des retraites. Hein. C'est un, d'abord, on nous a jamais appris à l'école qui avait créé ce truc-là, parce qu'il faudrait, rendre hommage à des communistes français. Donc, faut quand même pas à Ambroise Croizat et Marcel Paul. Donc, faut quand même pas exagérer. Par contre, je me souviens très bien que en 5e, début des années 80, au collège Paul Valéry, Madame Brunton nous avait sorti une pyramide des âges. Il nous avait dit, vous voyez les enfants, tous ces vieux, trop de vieux, pas assez de jeunes, machin. Vous n'aurez pas de retraite. Et vous n'aurez pas de retraite, moi je l'ai appris sur les bancs du collège. Et évidemment, après, TF1, Poujadas et compagnie ont pris le relais en disant, voilà, tous ces vieux qui servent à rien, qui produisent pas, qui peuvent plus traverser la rue pour monter des start-up, vous rendez compte, ils nous coûtent cher. Enfin bon, c'est tout un travail de déconstruction, mais qui a commencé à l'école, la propagande, et depuis au moins deux bonnes générations, quoi.
Déplorable. C'est un choix politique. On n'a jamais été aussi riche en France. On n'a jamais créé autant de richesses en 2019 par rapport aux autres années. On crée des richesses, qu'est-ce qu'on en fait? Nous sommes un pays riche, nous sommes riches de nos services publics, riches de notre protection sociale, et il faut vraiment les défendre. Et qu'à un moment donné, oui, on a tenu ce discours déplorable de vous les jeunes, de toute façon vous n'aurez plus de retraite, mais c'est aussi pour ça que les jeunes sont défaitistes en disant mais de toute façon, à quoi bon se bouger, dans 40 ans on n'aura pas de retraite. Mais non, c'est à nous, jeunes générations, plus jeunes, moins vieux que ça, de dire c'est notre société qui a une très bonne protection sociale créée effectivement en 45. Il faut la défendre, il faut de la solidarité et il faut réduire les inégalités grâce à ce système de solidarité collective mis en place grâce à notre sécurité sociale.
Tu peux à nouveau répéter cette information essentielle? La France n'est pas un pays du tiers-monde. On a, tu veux dire, les moyens encore de payer nos infirmières et nos profs, parce que En 2019,
le produit intérieur brut, plus de 2300 milliards d'euros.
Ah ouais, ouais.
Et en fait, il y a de l'argent, on crée des richesses. C'est des choix politiques de dire aux plus riches, bah, en fait, vous pouvez payer moins d'impôts. Et là, on se rend compte encore avec le budget de 2020 de Macron, je ferai un petit lien. Les 15% des ménages les plus pauvres, c'est-à-dire les plus démunis en France, vont perdre du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on met en place encore, dans ce budget 2020, des mesures par rapport aux cotisations et aux impôts qui vont finalement pénaliser les plus démunis, alors que finalement les plus riches vont encore en profiter. On a un Robin des Bois à l'envers. Macron prend aux plus pauvres pour donner aux plus riches, ça a gerbé.
que moi je pensais que le PIB de la France c'était en moyenne 2000 milliards d'euros par an, et donc là ça a augmenté.
Ah oui.
Et alors avec une soi-disant dette qui se creuserait environ de 100 milliards d'euros par an, et une fraude et une évasion fiscale entre 100 milliards, 150 milliards, mais au moins l'équivalent de la soi-disant dette. Vous savez, il n'y a pas de dette, hein. C'est juste pour vous faire flipper.
Bah c'est ça, c'est qu'en fait chaque année le déficit c'est grosso modo autant que l'évasion fiscale. Et l'évasion fiscale, c'est les plus riches qui fraudent, qui trichent avec les règles et qui se disent « je vais pas jouer le jeu de la société, je vais pas payer mes impôts là où il faudrait », c'est-à-dire en France. Ça dépend des chiffres. Certains disent 60 milliards, 80 milliards, 100 milliards d'euros qui manquent dans les caisses. Donc l'argent, on pourrait le récupérer, c'est les plus riches qui ne mettent pas l'argent dans les caisses et qui jouent pas le jeu du collectif. Par contre, les petits payent leurs impôts, les petites entreprises payent leurs impôts, alors que les Starbucks et autres s'amusent à ne pas payer leurs impôts en France en magouillant les chiffres, les comptes, etc. Et que c'est juste à dénoncer, quoi.
Bah voilà, bah je comprends pourquoi les gouvernements veulent casser l'école et les profs comme toi. Hein, parce que si c'est pour avoir des enseignants en communisme, hein, qui pour intoxiquer la tête de nos jeunes, bravo. Hein.
C'est indispensable, les profs, certains sont encore très politisés, on en a de plus en plus marre. Et comme dirait une collègue, on n'a qu'une chose à leur apprendre aux gamins, c'est à désobéir, défendre des valeurs indispensables et fondamentales. Donc l'éducation nationale est encore nécessaire, oui.
Mais ça se tend vachement. Je sais que le métier est très dur et que les asiles psychiatriques sont pleins de profs et de flics fatigués.
Ah ouais.
Voilà, ça n'a jamais été drôle comme boulot et c'est très, très usant. Évidemment, ça ne s'arrange pas. Et surtout, il y a un truc qui a volé en éclat pour moi, c'est le mythe, entre guillemets, et pardonne-moi, du « bon, ouais, c'est dur, mais c'est quand même relativement privilégié et protégé. Il y a la soi-disant sécurité de l'emploi et ces 16 semaines de vacances pendant lesquelles le gouvernement va vous coller des stages de formation, j'en suis sûr, parce que c'est quand même odieux. » Mais là, l'histoire de prof, c'est la planque, fermez les beaucoup de guillemets. En fait, c'est terminé, là. J'ai un pote, il me dit 20 ans de boutique, 2200 euros de salaire, 800 euros de loyer, plus mettre de l'essence dans la Twingo pour aller se faire exploiter sur trois bahuts. Mon pote, je lui ai dit, mais t'es un gilet jaune de l'éducation nationale, en fait. Prof, c'est la loose, en fait.
On commence à Bac plus 5, début de carrière, à peu près à 1650. On perd du pouvoir d'achat et on se fait grignoter. Le point d'indice est gelé, donc on perd du pouvoir d'achat d'année en année en année en année. C'est une grosse blague que un certain Jean-Michel Blanquer nous promet une augmentation de salaire parce que derrière il n'y a juste pas les fonds et que c'est très bien que le Conseil d'État ait indiqué que c'était pas possible de l'indiquer comme ça dans la réforme des retraites qu'ils allaient nous augmenter avec une autre loi, bref. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien voir, c'est que les profs sont véritablement en souffrance. Que là, j'ai une copine, ça fait juste 6-7 ans qu'elle est prof et en fait, elle est en épuisement professionnel. Pareil pour les enseignants plus âgés, parce que là, avec la réforme du lycée, on est malmené parce que tous les programmes changent seconde, première en même temps. On a de nouvelles épreuves, c'est totalement flou. Et derrière, on a une pression de préparer nos gamins à des épreuves de plus en plus tôt. On n'a pas le temps de bien les préparer. Et finalement, c'est très rude et derrière on n'a pas de reconnaissance. On nous dit effectivement qu'on fait ça pour les vacances et qu'on est privilégié, mais il y a aussi la souffrance de ne pas être satisfait de nos cours. On n'a pas le temps de bien préparer nos cours, on n'a pas le temps de bien préparer nos élèves aux examens. On est en souffrance parce que derrière on n'arrive pas à faire notre boulot correctement et c'est un truc systémique, quoi.
Évidemment, dans les moyens d'action, il y a bien entendu la grève et la manifestation, mais c'est relativement indolore, si tu me permets l'expression, pour les gens du secondaire. Bon, voilà. Les parents de collégiens sont plus emmerdés parce que voilà, les profs n'assurent pas la garderie.
Encore plus, effectivement, le personnel des crèches ou des professeurs des écoles gênent plus la société que les profs du lycée parce que nos élèves, bah, ils sont grands, ils peuvent s'autogérer, alors que ils peuvent se gérer, pardon. Alors qu'effectivement, si les professeurs des écoles se mettent en grève, c'est plus compliqué pour les parents et donc pour la société.
Et alors, en autre moyen d'action pour les enseignants du secondaire, il y a quand même le bac.
Absolument.
On a vu qu'il y a pas mal d'établissements là où le contrôle continu pour le bac, les épreuves du bac sont perturbées, où se passe n'importe comment, on fait surveiller les épreuves par des gens qui ne surveillent rien.
Donc voilà. Il faut bien voir qu'effectivement avec le nouveau bac, c'est un bac local, donc les premières épreuves se sont déroulées là il y a quelques semaines en janvier pour les élèves de première. On peut constater qu'un grand nombre de collègues sont opposés à ce bac local, donc plus inégalitaire. Ils ont refusé pour un grand nombre de surveiller les épreuves des E3C, épreuves communes de contrôle continu. Et donc du coup, pour que les épreuves soient tout de même assurées, on a recours à des retraités et à des chômeurs en fin de droit, ce qui est absolument dégueulasse parce que c'est des briseurs de grève d'une part, Et concernant les chômeurs en fin de droit, ils n'ont pas le choix. Donc c'est très moche de la part de l'éducation nationale de mettre ça en place. Au lycée Jouer Tour, un retraité de 83 ans qui s'est cassé la figure pendant la surveillance dans les couloirs du lycée. Et on a dû chercher les pompiers, on dit mais elle est belle la France de Blanquer où on a besoin d'un mec de 83 ans pour surveiller des épreuves du bac. Alors il nous fait croire qu'une très large majorité soutient sa réforme et ses propos, mais non, il faut savoir qu'on est vraiment dans un climat anti-Blanquer et que la grogne est là et qu'on en a juste marre de cette casse du service public d'éducation et qu'on sent la volonté de privatisation parce que forcément les élèves qui auront les moyens vont prendre des cours privés, des lycées privés pour leurs gamins.
C'est déjà le cas. Hein.
Absolument, mais là, ça sera de pire en pire. Ça sera vraiment une logique où même on vous propose maintenant aux élèves de payer quelques dizaines d'euros pour être bien conseillé pour Parcoursup. Et derrière, c'est des fonds privés qui vont s'accumuler à défaut de l'éducation nationale publique.
Donc de toute façon, entraver les épreuves d'un bac qui vaut plus rien, qu'on donne comme dans une pochette surprise, mieux que les élèves aient un bac qui représente quelque chose plutôt qu'un bac de merde qui dit rien.
C'est ça, et là surtout ce qui est embêtant avec ce nouveau bac, c'est que c'est un bac local et donc les gamins qui sont dans un lycée réseau d'éducation prioritaire et on se dit ce bac vaut moins qu'un bac dans un grand lycée parisien, bah, c'est absolument inégalitaire et l'idée c'est de dire que tous les élèves aient le droit aux mêmes épreuves, à la même notation et finalement le même bac national avec la même possibilité de dire j'ai eu mon bac comme dans le grand lycée parisien. Et donc on se mobilise en utilisant les examens pour faire levier et on va continuer parce que la grogne est vraiment là quoi. Ça fait du bien quand même de lever la tête et de dire ça suffit. Oui, la conscience professionnelle est là. Oui, on ne veut pas pénaliser nos élèves, mais justement, on pense à eux. Et on aimerait qu'ils vivent dans une société où il y a une protection sociale, où il y a des services publics de qualité, où ils auront le droit à une retraite, une pension de retraite digne. Voilà.
Tiens, là, tes collègues de la FSU qui passent, elles sont super créatives. Elles enrichissent leur répertoire de chansons.
Quelque chose en toi ressemble à moi.
David, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui est marqué sur ta banderole, sur votre banderole, parce que vous êtes deux à la porter?
Là, aujourd'hui, c'est la banderole du syndicat Tourangeau des artistes musiciens.
Vous êtes intermittent du spectacle?
Oui. Alors, les autres fois, c'est la banderole Culture en lutte. Hein.
Qui est aussi là?
Ouais, elle est devant nous. Il y a des gens qui ont fait leur petit drapeau noir avec Culture en lutte. C'est super. Et je les connaissais pas, mais on s'est retrouvés grâce à ça tout à l'heure.
Alors, c'est pas la première fois que je te vois dans une de ces manifestations qu'on démarrait depuis le 5 décembre. Alors, la dernière fois, c'était avec un djembé dans un super brass band. Et je n'avais jamais entendu de chorus de djembé jusque-là et c'était magnifique. Qu'est-ce que c'est bien?
Non, t'inquiète pas, les gars, ils reviendront. On a pris aussi beaucoup de plaisir à jouer dans la rue. On a eu beaucoup de retours hyper encourageants de gens qui ont dit « ça nous fait du bien, c'est chouette ». On se fait des petits messages avant les manifs et puis quand on est assez nombreux, on sort tous nos instrus. Quand il n'y a pas moyen, c'est pas la peine de le traîner pendant 3 heures. On ne peut pas jouer seul. Hein. La musique, c'est une histoire d'équipe, c'est une histoire de collectif. Comme quand on lutte, c'est la même chose.
Moi, en tant que public, moi j'aime beaucoup aller au spectacle, j'aime beaucoup les artistes et les musiciens. Ça m'a fait très plaisir de voir les artistes sortir dans la rue parce que ça fait quand même presque 20 ans que je me dis mais qu'est-ce qui branle les artistes et les intermittents? On est en train de s'attaquer à leur public. publics. Alors certes, dans leur mission, les artistes, ils ont de nous divertir, mais aussi de veiller sur nous, quoi. Enfin, je crois que c'est aussi pour ça qu'on paye des impôts, pour vous permettre de créer et éventuellement de réfléchir. Et bon, ça a l'air d'être ton cas, puisque ça fait plusieurs fois que je te vois battre le pavé, mais avec des collègues intermittents assez rares, quoi.
Bah, ce qui n'est pas évident, c'est qu'on n'est pas forcément groupé dans une boîte, dans une structure dans laquelle on se retrouve en permanence. Alors on se connaît à peu près tous, enfin en tout cas, moi je parle des musiciens, je connais une grande partie des musiciens tourangeaux.
Et donc des technos.
Oui, un peu moins peut-être, mais voilà, déjà à l'intérieur du monde de la culture et des intermittents, c'est très 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 vaste. Ce matin, ce sont des techniciens de l'audiovisuel qui sont avec nous. C'est des gens que j'ai jamais croisés de ma vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas amené un jour à travailler ensemble, mais c'est ce qui complique pour nous la possibilité de se réunir et de se mobiliser, parce que il n'y a pas de lieu qui est dédié à ça. Alors on a essayé, on crée des AG, on a créé une plateforme internet sur laquelle on communique, mais quand on ne se connaît pas visuellement, déjà c'est plus compliqué de communiquer intelligemment et de faire confiance aux propos des uns des autres. On ne sait pas qui ils sont. Voilà, c'est une profession qui est très très diversifiée.
Et donc atomisée.
Bien sûr, bien sûr. Alors c'est vrai qu'après, quand entre musiciens on se passe un petit coup de fil et qu'on se retrouve sur une manif, c'est beaucoup plus simple. On a un outil commun, c'est la musique, parfois même des répertoires communs, parce qu'on joue plus ou moins dans des groupes où on s'est croisé dans des groupes ensemble. Et là, ben, c'est très efficace, c'est évidemment sonore, c'est visuel aussi, et on sait faire. Le reste est plus compliqué. Les gens aussi, les techniciens, ont peut-être plus de mal à se faire repérer dans la rue. Alors notre petit sigle avec la croix, c'est pas mal pour ça.
Le signe de reconnaissance chez les intermittents, c'est de se faire une croix en gaffeur ou en chatterton pour vous reconnaître, quoi, comme des cibles, je suppose. En tout cas, moi, je suis dans des fantasmes un peu naïfs de 1936 et des théâtreux qui iraient jouer pour les piquets de grève et des musiciens qui seraient systématiquement avec les gilets jaunes le samedi et tout. Et en fait, je me fais un peu des illusions quand même. Il me semble que l'intermittent, il a un devoir de service public obligatoire, puisque c'est très bien qu'il puisse jouir de ce régime, hein, qui n'est pas un statut, de ce régime d'indemnisation qui permet d'avoir du temps pour réfléchir et créer, quoi. Et moi, j'estime en tant que public que les intermittents ont un devoir de service public vis-à-vis de leur public. Pourquoi t'es dans la rue, toi? La retraite chez un musicien, ça veut pas dire grand-chose. Il y en a plein qui meurent sur scène.
Moi, je suis dans la rue aussi à titre individuel. Comme j'ai pu être dans la rue au moment des Gilets jaunes ou à d'autres moments, c'est pas ma première manif, ce sera sûrement pas ma dernière. Après, être engagé, c'est ça fait partie d'un choix de vie. On peut être intermittent engagé, demain je peux ne plus être intermittent, je serai encore engagé, même si j'ai une autre profession. Donc je suis pas sûr que l'engagement soit lié au métier qu'on fait.
Dans mes potes, moi je connais des intermittents macronistes, hein. Et là tu te pinces, quoi, tu te dis merde.
Je suis pas certain que le ratio de gens engagés dans la culture soit très supérieur au ratio de gens engagés dans d'autres secteurs.
Je me fais des illusions, je me dis que ce métier, il a des responsabilités supplémentaires par rapport à d'autres.
Il y a un côté quand même qui reste assez individualiste dans la musique. Quand on voit le showbiz, certains ont besoin de mettre leur nom sur un CD et d'autres préfèrent jouer sous le nom d'un groupe. On reste dans un milieu, faut pas se leurrer, où à la fois il y a du copinage et de la fraternité, plein de collègues qu'on aime bien recroiser, et puis un moment donné, quand faut bouffer, c'est la guerre. Notre boulot consiste à aller chercher du travail tous les jours. C'est pas pour rien, on dit les intermittents c'est super, non, faut pas oublier, on est des chômeurs en puissance. On est des chômeurs qui tous les jours chez eux doivent jouer, préparer leur boulot, leur technique, toucher leur instrument pour un musicien, leur massue de jonglage pour un gars du cirque, ou faire leurs exercices d'étirement pour que le jour du spectacle, on soit performant.
Dans un milieu hyper compétitif.
Dans un milieu qui est hyper compétitif, avec une concurrence parfois déloyale. Moi, je suis pas un artiste du showbiz, je joue davantage en local. Une partie de l'argent qui finance les concerts reste de l'argent public. Je suis d'accord avec toi. C'est les manifestations municipales, les fêtes de village. Alors là, on est plus peut-être sur des comités des fêtes. Mais même les festivals, la plupart du temps, ça marche aussi avec des subventions. Donc le festival reçoit une subvention qui permet de payer des groupes et ça nous revient. Donc effectivement, il y a une part d'argent public. Et les gens qui emploient ne sont pas toujours à jouer le jeu. C'est-à-dire qu'il y a quand même des mairies qui se permettent de prendre des groupes amateurs, de payer des gens d'une manière qui n'est pas complètement dans les clous, dans la légalité. Et on est confronté à ce type de choix et de concurrence en permanence.
Thank you.
à vous d'avoir été là, ça nous a mis du baume au cœur. Et puis c'est une musique, hein, la Nouvelle-Orléans, les Brass Band, c'est une musique qui a du sens social et politique. Je trouvais que ça exprimait tellement de choses. Au-delà de l'esthétique, c'est aussi une musique de lutte, d'expression populaire, quoi. Et là, vous étiez exactement là où vous deviez être.
Tout à fait. C'est ça. Et après, c'est aussi la force et ce qui a fait qu'on a pu se retrouver, se montrer vraiment à un moment donné en musique. C'est qu'on est un certain nombre de collègues à jouer dans des fanfares, dans des musiques de rue. On est habitué à faire de la rue. Donc, on est à notre place.
Ici, à Tours, là, on est le berceau de la compagnie Off, hein, qui a elle-même engendré beaucoup de compagnies dites de rue, d'art de la rue. Si je dis, attendez les gars, il y a votre public qui est en train de défiler sur votre espace de jeu, et vous, qui nous donnez des conférences sur les arts de la rue, vous êtes où?
Soyons tous là, et n'oublions pas que le monde, il se construit ensemble. Parce que la solidarité, il n'y a que ça qui fera que le monde changera. Si chacun continue à regarder son petit nombril et à penser à son petit cachet, forcément...
Même en restant individualiste, hein, si le public il a plus les moyens d'aller au spectacle, que vont devenir les artistes?
Ouais. Puis il y a des tas d'autres problématiques, hein, dont on n'a pas pris le temps de parler, mais c'est vrai qu'on parle de la retraite. Est-ce qu'on pourra faire de la rue à 50 ans? Je m'en rapproche doucement de ces 50 ans. Ouais, on peut toujours faire de la musique jusqu'à 70 ans ou plus. Il y a des stars qui font ça. Mais les gens du cirque, même techniciens, quand les gars bossent jusqu'à 3-4 heures du matin, brasser des caisses, c'est des tonnes parfois qui sont brassées dans la soirée. Jusqu'à quel âge on peut faire ça? Et je pense qu'avant même la question de la retraite, il y a aussi toujours cette histoire, comme dans d'autres corps de métier, de la pénibilité du travail qui n'est pas prise en compte. Quand on devient plus âgé, l'image aussi de l'artiste change. Il y a le côté qui peut être ringardisé pour certains, etc. Il faut le trouver le boulot après, il faut continuer à exister, à être, à se renouveler. Moi, je vois pas trop comment à 65 ans, je pourrais encore porter un djembé, taper dessus. Et donc, c'est même pas la question de la retraite qui se pose pour moi, c'est la question de la fin de carrière d'abord. Que...
Tu vas passer au triangle?
Je suis pas sûr qu'on me donnera un cachet pour jouer du triangle. Voilà, la réalité, elle est surtout là, quoi. Ouais. Il y a pour beaucoup, je pense, ce truc de dire on fait l'autruche. Aujourd'hui, on en vit, on est content, on fait un beau métier, et puis on verra bien demain. Bon, c'est facile de repousser l'échéance. Moi, je regarde un peu plus devant et je me pose vraiment les questions. Et d'ailleurs, à titre très personnel aussi, hein, pas que pour une lutte syndicale, quoi. Voilà.
Macron, tes poings dans ta gueule.
Putain,
ton plan dans ta gueule.
Bonjour Anita.
Bonjour.
Sud solidaire, santé, sociaux, et tu es infirmière aux urgences.
Infirmière de nuit aux urgences.
On a eu plaisir de parler avec toi il y a quelques émissions de ça. Comment ça va?
Moi ça va. Les urgences c'est toujours la même chose. L'hôpital c'est toujours aussi malade. Je dis bien l'hôpital est malade. Hein. Les patients aussi, mais l'hôpital est très malade. Ça ne s'arrange pas et je pense que ça ne va pas aller en s'arrangeant malheureusement. C'est pour ça qu'on est encore là dans la rue, parce que le problème des retraites là aujourd'hui concerne aussi les agents hospitaliers. Le problème sont tout à fait cohérents, qu'on rassemble nos mobilisations ensemble entre hospitaliers et puis les autres secteurs de la vie, quoi, tout simplement, les cheminots et tout ça.
Ça fait longtemps qu'il y a des salariés des hôpitaux partout en France qui tirent la sonnette d'alarme, qui manifestent, qui font grève. Je vois de toute façon depuis 20 ans des gens des hôpitaux aller dans les manifs. C'était bien avant le 5 décembre.
Surtout, on est en grève depuis juin
2019.
Ça fait presque un an déjà qu'on est dans la rue au niveau national à la suite du mouvement des urgences sur la PHP. Dans beaucoup d'hôpitaux, la grogne, on sentait bien que ça montait, qu'il y avait des mouvements de grève un peu locaux. Nous, surtout, on est en grève depuis 2018, hein, donc quand il y a eu la décision du plan Copermo. La grogne, elle est partout. Elle a été partout un petit peu au niveau local. Et là, elle s'organise un peu au niveau national avec tous les corps de métier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les soignants, il y a aussi les médecins maintenant. c'est quand même le signe que l'hôpital va mal et qu'il est grand temps de faire quelque chose. Nous, hospitaliers, on est conscients que si on ne fait rien, on ne bouge pas, c'est notre métier qui est en danger et ce pourquoi on veut faire ce métier qui va s'écrouler, quoi. Les soins, le service public qu'on est en devoir de rendre à la population, on est en train de le détruire. Et ça, c'est inadmissible.
Ce que tu as dessiné dans le dos de ta blouse de gréviste, clinique privée, pour rentrer dans l'hôpital sur la blouse, en fait, on ne voit pas une carte vitale, on voit taper son code de carte bleue. Ce qu'explique ta blouse, c'est que bientôt, pour rentrer à l'hôpital, on ne demandera plus la carte vitale.
Carte bleue, c'est ça. Parce que vu qu'on est en train de privatiser un maximum, maintenant, pour se faire soigner, il faudra avoir les moyens de le faire via la carte bleue. Et c'est ce qu'on dénonce, c'est ce pourquoi on se bat aujourd'hui, que ça ne devienne pas ça.
Les gens qui font grève à l'hôpital, vous avez quand même du mérite parce que, entre parenthèses, vous bloquez rien. Si t'es en grève, malgré tout, si quelqu'un arrive avec une perceuse dans la tête, tu vas quand même essayer de faire quelque chose.
C'est sûr, c'est ce qui fait aussi un petit peu notre malheur. Vu qu'on ne bloque rien, eh ben, ils nous laissent avec nos petits problèmes. On a beau crier, on a beau essayer de montrer qu'on n'est pas content. Ils ne font rien pour autant. Au contraire, ils essaient de laisser pourrir la situation. Et c'est décourageant à la fois pour les agents et à la fois pour les usagers qui voient bien que rien n'est fait pour l'hôpital et qui en subissent les conséquences au jour le jour.
Évidemment, le but, hein, c'est de faire de l'hôpital une entreprise qui fonctionne avec des facturations. Or, il y a des services partout en France qui n'envoient pas les prestations à la compta, ouais. Ce qui fait que l'hôpital ne peut pas encaisser les sous des clients, hein, parce que maintenant, les gens ne sont plus vraiment des usagers d'un service public, c'est devenu c'est les clients de l'hôpital. Est-ce que c'est le cas, par exemple, à Tours?
Alors,
une espèce de grève de signaler à la compta les prestats.
Alors, à Tours, il y a des services, justement, on est un petit peu en conflit avec la direction, justement parce qu'il y a des services qui normalement, des agents qui n'ont pas dans leur attribution de faire ce qu'on appelle la codification des actes, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Ils ont le droit de tracer ce qu'ils font, mais ils ne codifient pas, ce qui veut dire que les sous ne rentrent pas.
D'un seul coup, vous existez là.
Non seulement on existe, mais ce sont des menaces qui nous sont proférées, donc c'est des menaces de sanctions à l'encontre des collègues et au niveau national, à l'encontre des médecins là, qui ont été démissionnaires de leur fonction administrative. Pour les médecins qui sont démissionnaires au surtour, parce qu'il y en a une bonne quinzaine sur Tours aussi, ça sera exactement les mêmes risques de sanctions, des sanctions administratives de la part de la direction. Bah oui, forcément, là on touche là où ça blesse, c'est-à-dire au portefeuille. Là, pour une fois, on existe. Il faudrait que ça soit à la limite généralisé et peut-être qu'on aurait une oreille un peu plus attentive de la part de notre ministre. On veut des hôpitaux partout en France avec un niveau de soins correct pour toute la population et non pas que des petits centres de gériatrie ou de soins de suite. On veut qu'il y ait de la technicité et du savoir-faire partout pour que nos patients soient bien soignés partout en France.
Au clair de la lune, mon ami Buzyn, prête-moi ta thune pour payer le médecin. L'hôpital est mort, il n'y a plus de lit. Qu'est-ce qu'on fera alors pour soigner papy?
Julie, bonjour.
Bonjour.
C'est un événement très triste aujourd'hui, un enterrement.
Oui. Aujourd'hui, on est face à l'agonie en fait de notre hôpital public, de ses soignants et aussi de ses usagers, du coup soignés, qui perdent de plus en plus leurs droits, leurs dus, leur propriété, qui est tout la nôtre en fait, qui est l'hôpital public, comme tout service public.
T'es en blouse blanche et tu portes un panneau que je vais demander à un copain de lire, parce qu'il y a une nouvelle maladie apparemment qui s'est déclenchée. Oui. Ça a l'air pire que le corona.
Ah bah la grave maladie JBD, la buzinite,
non féminin.
Faut-il le préciser, allergie grave due aux parasites ministériels impliquant souffrance et stress, et les conséquences sont terribles, c'est le risque de mort.
Donc c'est contagieux, docteur?
Écoutez, je ne suis pas docteur, mais oui, hein, de ce qu'on observe, c'est très contagieux chez les soignants comme chez les soignés. C'est un parasite du coup ministériel qui ne donne uniquement qu'aux financiers et du coup qui prive l'hôpital public de tous ses moyens. Et qui les met donc en souffrance, en stress, pouvant aller jusqu'à la dépression, le burn-out et la mort des soignants, des soignés et de l'hôpital.
Un truc que je trouve très remarquable dans les discours des soignants en manifestation, c'est que Vous ne parlez pas de votre retraite, vous ne parlez pas de vos salaires, vous parlez de notre hôpital, de l'hôpital qui soigne tout le monde. Je trouve ça assez admirable. En fait, vous n'êtes pas là pour défendre de soi-disant privilèges ou votre précaré, mais l'outil de travail.
En premier, oui, voilà, c'est ça, parce que c'est notre cœur de métier, en fait, de pouvoir soigner à l'hôpital toute personne qui en a besoin, parce que c'est les bases de la sécurité sociale. Et ça, actuellement, on ne peut plus le faire, ou on ne peut plus le faire dans de bonnes conditions. Et du coup, on a tous la sensation et la souffrance de finir sa journée de travail avec déjà des heures supplémentaires et en plus la sensation d'avoir pas bien fait son travail parce qu'on n'a pas eu les moyens de le faire.
Fais quoi toi comme métier toi ?
Je suis infirmière.
Donc ça t'arrive de rentrer à la maison le soir en disant j'ai fait ce que j'ai pu mais ce soir aujourd'hui j'ai fait du boulot de merde.
Exactement, c'est quasiment tous les jours. On rentre comme ça et c'est le sentiment de tous nos collègues, on se dit on a pas bien fait, c'était pas comme ça que ça aurait dû se passer et avant ça ne se serait pas passé comme ça. Et aujourd'hui on fait attendre des patients, on reporte des hospitalisations parce qu'on a des entrées en urgence mais les lits attendent dans le couloir, le patient d'avant il n'est déjà pas encore sorti. On ne peut pas faire les choses bien, on force les sorties trop vite pour pouvoir en accueillir d'autres. Mais ça c'est à cause des fermetures de lits. Depuis le plan Copermont, on a fermé énormément de lits, on a supprimé des postes de soignants et depuis l'accès aux soins a été mis en danger en fait pour tous les Français et pour tous les usagers. Après, on a des revendications aussi sur nos retraites parce qu'il faut savoir que le plan de retraite, ça va être un plan qui va être complètement misogyne et pour l'hôpital qui est à 80% en fait une population féminine, vu qu'il va être basé sur des primes, en fait la population féminine qui socialement est plus en arrêt ou a une carrière plus fractionnée due aux maternités, etc., on va être une population beaucoup touchée en fait par ce plan de retraite, donc on lutte aussi contre ça et on lutte aussi quand même pour nos salaires parce que en premier il y a nos conditions de travail, il y a l'accès aux soins pour défendre pour tout le monde, mais il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'on est aussi très sous-payé à l'hôpital, on gèle notre point d'indice depuis très longtemps et du coup c'est une accumulation de choses qui fait qu'aujourd'hui en fait tout le monde est mal à travailler à l'hôpital.
Je comprends pas, j'ai entendu Édouard Philippe quand il a annoncé la soi-disant réforme, là il a dit que c'était une grande conquête sociale et il a évoqué l'esprit du CNR, le Conseil National de la Résistance, et il a notamment spécifié que ce serait une grande conquête sociale pour les femmes.
Mais en fait c'est faux, voilà c'est ça en fait, c'est-à-dire que c'est un mensonge en fait, voilà, et ils nous mentent tous en grande partie dans ce gouvernement. Non en fait, les femmes vont être les premières touchées en fait par ce plan de réforme, ce sont elles qui vont finir avec le moins de retraite en fait possible, ce sont les plus basses catégories au contraire qui vont être encore plus touchées. Pourquoi ? Parce que c'est des catégories où il y a plus de précarité, donc des carrières plus fractionnées, donc forcément moins de retraite à la fin de leur carrière. Donc ce sont des mensonges.
Toi t'as pas attendu le 5 décembre, enfin toi et tes collègues hospitaliers, ouais. Vous étiez en grève bien avant le 5 décembre 2019. Ça fait longtemps, ouais, que vous battez le pavé les personnels hospitaliers, ouais, pour essayer de nous alerter.
À l'hôpital de Tours, depuis le plan Copermont, il y a énormément de services du coup qui sont en grève, les unes après les autres. Pourquoi ? Parce que c'est un service qui est restructuré après l'autre et que du coup les services se battent mais sans entendre rien. On a des directions, on a des gouvernements et on a une ARS en fait qui nous entend pas. Quand on leur dit que c'est les patients qui vont être en danger quand on supprime des effectifs. Nous, c'est depuis le plan Copermo et même déjà un petit peu avant qu'on essayait de défendre nos droits et défendre l'accès à la santé pour les soignants.
J'avoue que je suis agréablement surpris. Je pensais qu'on serait 12 devant l'ARS. On est quand même plusieurs centaines.
On aurait tous aimé qu'on soit encore plus. La difficulté en fait de la mobilisation hospitalière, c'est que c'est une population qui ne peut pas se mettre en grève puisqu'on est assigné au service minimum lorsqu'on est déclaré gréviste.
Vous êtes gentil en fait, vous ne bloquez rien.
Mais en fait, on a très peu de champs d'action et le rapport de force est très difficile à établir. Et puis, sur des équipes qui sont déjà en sous-effectif de base, bien sûr, le service minimum de toute façon est posé en assignation de grève. Donc les équipes forcément sont fatiguées. Et puis oui, il y a une fatigue générale en fait des collègues qui disent oui, je veux bien aller manifester, mais en fait je suis fatiguée, je suis usée et il faut que j'aille retrouver ma famille parce que ma vie sociale aussi en perd. Après, on est là et non, on perd pas la face et on se bat encore et on se battra toujours pour sauver l'hôpital public qui nous appartient à tous. Il est à nous l'hôpital public, donc non, on se laissera pas faire.
Dans notre établissement, ouais, y a du travail, comme ça y a du travail, comme ça des effectifs, comme ça des effectifs, comme ça et des salaires, comme ça et des salaires, et du mépris, comme ça et du mépris, comme ça et on les a, comme ça et on les a, comme ça.
Bonjour Élodie.
Bonjour.
Devant l'agence régionale de la santé ici à Tours, en région centre, qu'est-ce qui a marqué sur la grande bannière là ?
Alors nous, on est la psychiatrie de Château-Renaud-Amboise. C'est une banderole qui a été faite par les patients. parce qu'on les implique aussi avec nous dans tout ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur du service. Et ils savent un petit peu les difficultés qu'on peut rencontrer, quoi.
Qu'est-ce qui a marqué ?
Psychiatrie de Château-Renaud en grève. C'est les patients qui l'ont fait. C'est les patients d'Amboise avec des collègues infirmiers et puis cadres, médecins, parce qu'on est tous ensemble pour la même cause.
Ça s'appelle comment ton métier ? Infirmière en psychiatrie ?
Non, je suis aide-soignante, moi.
Aide-soignante.
Ouais, je suis aide-soignante. Je suis même fière d'être aide-soignante pour le moment. Peut-être qu'un jour je serai infirmière, mais pour l'instant, je suis aide-soignante. Ouais.
Ça fait combien de temps que tu fais ce boulot-là ?
Ça fait 5 ans et demi. 5 ans et demi. Et 5 ans et demi, bah, que, on trouve que c'est de plus en plus compliqué et difficile de travailler dans des milieux comme ça. Il y a peu de moyens. On ne se sent pas soutenu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'hier. Il y a eu encore un événement assez catastrophique. Il y a eu une infirmière de Thouars qui s'est fait tuer. Une infirmière dans un service hospitalier en psychiatrie à Thouars, menacée et puis tuée par une arme blanche. Et en fait, c'est aussi pour montrer nos difficultés dans les services et peu de moyens financiers et personnels. Là, aujourd'hui, on est motivé, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont obligés de rester dans les services parce qu'ils sont assignés, parce qu'on ne peut pas laisser les services tout seuls, quoi.
Oui, c'est ça, vous êtes bien gentils, les personnels hospitaliers, c'est que quand vous faites grève, vous bloquez rien.
Non, mais dans le service, on a un nombre assigné. Après, on est obligé d'être un minimum pour s'occuper de nos patients, ce qui est normal. Après, les gens qui ont la possibilité de faire grève sont souvent dans les rues, ce qui se passe maintenant là. Mais c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir aussi être dans les rues tout le temps, parce que de l'argent en moins pour nous, parce que quand on est gréviste, et bah, ça tombe pas dans le porte-monnaie, quoi. Mais on fait notre maximum aussi pour se relayer et pour être là régulièrement. Et on est là depuis quand même un mois et demi.
Pourquoi t'as choisi ce métier-là ? Je sais pas, t'aurais pu devenir tradeuse ou faire quelque chose de plus confortable ?
Déjà, à la base, je voulais être pompier quand j'étais jeune, donc j'avais fait les jeunes sapeurs-pompiers, tout ça. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas travailler avec... m'occuper des gens autrement. Donc j'ai commencé à travailler en EHPAD, mais sans diplôme. J'ai reçu mon concours et après, j'ai fait un stage en psychiatrie à Château-Renaud, ce qui m'a plu, parce que c'est un service institutionnel où on fait tout avec les patients. Quand j'ai postulé, on m'a recruté et depuis j'ai pas laissé ma place à quelqu'un d'autre.
Ce que je remarque dans ton discours ou avec d'autres collègues de l'hôpital avec qui j'ai pu discuter, c'est que les gens ne me parlent pas spontanément ni de la retraite, ni de leurs conditions salariales. Tous me parlent de l'outil et du cadre de vie et de travail et des patients.
Oui.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour réclamer des sous, des vacances ou des tickets restaurants. Vous êtes là à battre le pavé, à perdre des journées de salaire pour défendre nos hôpitaux.
Oui. Bah après, c'est aussi important d'avoir des moyens pour s'occuper correctement des gens. Après, c'est sûr que nous, on pense aussi un peu à nous. Hein. En même temps, la retraite, on se bat depuis quelques temps. Macron, il veut rien entendre pour le moment et je pense qu'il n'entendra rien.
C'est un problème au RL ?
Peut-être. Donc, il faudrait peut-être qu'il aille se faire soigner dans un hôpital public pour voir un petit peu comment ça se passe. En attendant, c'est sûr que les retraites, moi, j'ai 29 ans. Quand je vois tout ce qui se passe, je me dis que ça sera peut-être pas possible quand même que je vienne travailler en déambulateur dans un service de psychiatrie. C'est sûr que ça m'inquiète. Après, je suis encore jeune. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos problèmes actuels, c'est quand même les moyens dans nos services, quoi. Parce que moi, ma retraite, c'est pas demain, même si j'y pense vraiment et je sais pas comment ça va se passer, parce qu'en fait, ils changent de texte tous les 3-4 jours. Ils savent même pas trop comment ça va se passer. À un moment, c'est les militaires qui bougent, à un moment, c'est les avocats, à un moment, c'est nous. On est pris pour des cons, c'est tout.
Maryse, je peux échanger quelques mots avec toi ?
Maryse, c'est ma cadre.
Parce que t'as envoyé Elodie au feu parler au micro. Je te voyais acquiescer à ce qu'elle disait.
Oui, moi je suis infirmière en psychiatrie depuis 35 ans et on a toujours défendu effectivement plus les soins. Les soins en psychiatrie, c'est vraiment d'avoir des soignants pour accompagner les patients sur l'extérieur, ce que Elodie a dit tout à l'heure. C'est beaucoup de temps. Et le temps, c'est des agents en plus. Et on nous reproche parfois de garder nos patients dans les lits et tout, mais parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper d'eux, de les emmener à l'extérieur, de prendre le temps avec eux. Le problème à Thouars, ils ont énormément manifesté depuis longtemps. C'est regrettable qu'un soignant se fasse tuer pour qu'on puisse faire quelque chose, quoi. C'est en amont qu'il faut agir. Les infirmières ne sont pas en insécurité en psychiatrie si elles ont les moyens de discuter avec les patients, de les accompagner, d'être suffisamment nombreuses pour faire leurs soins. Les malades mentaux ne sont pas dangereux. Ils ont besoin d'être soignés, c'est tout.
tout est à nous, rien n'est à eux. Tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé.
Ils l'ont volé.
Partage des richesses, partage du temps de travail. Ou alors ça va péter,
ça va péter.
Aujourd'hui, c'est gloire aux gagnants, gloire aux monteurs de start-up, gloire aux gens efficaces qui savent traverser la rue pour monter des entreprises et machin. Et puis, finalement, il y a un peu ce discours hein, lancinant, quels que soient les pouvoirs qui défilent d'ailleurs. Hein, c'est bon, les vieux, ils foutent rien, ils produisent rien, ils nous font chier, c'est des boulets. Les jeunes, on se demande. Les patients en psychiatrie, c'est pas coté en bourse tout ça. C'est des poids, c'est des charges. Alors, ils osent pas encore le dire, mais moi, je sens transparaître ce discours de pourquoi on gaspillerait du pognon pour des gens pas productifs. Quoi. J'exagère.
Non, mais c'est pas qu'en psychiatrie. En fin de compte, le coût de la santé, c'est des dépenses. Et le système actuel nous fait croire un peu qu'il faut être rentable alors que c'est que des dépenses pour la société. Et ça demande une solidarité entre nous tous pour dépenser pour nos retraités, pour la santé de tout le monde. Et le système actuel de financement des hôpitaux, ils ont inversé le fait que ce soit une dépense. Il faut que ce soit rentable, comme si on faisait des soins et on a des tarifs, on est remboursé. Finalement, c'est la question depuis longtemps, c'est est-ce que l'hôpital est une entreprise ? Moi, je dis non, ce n'est pas une entreprise, ce n'est que des dépenses.
Donc finalement, dans un câble d'un hôpital rentable, comment est-ce qu'on évaluerait votre efficacité? C'est absurde. C'est comme si on payait les profs en fonction du nombre d'élèves qu'on le bac. Quoi. Enfin, c'est débile.
Oui, c'est comme essayer d'évaluer la qualité de vie, le bonheur. Les statisticiens s'évertuent à essayer de nous donner des indices de société avec la meilleure indice de longévité, en bonne santé, tout ça. Tous ces chiffres, ça paraît objectif comme ça, ça paraît scientifique, mais en fait, effectivement, c'est complètement absurde parce que quand on se dit, mais combien coûte une vie humaine, combien coûte la solidarité, tout ça, c'est des questions de société qui doivent être débattues au niveau politique et rien d'autre. Ce n'est pas des chiffres.
J'avais un de tes collègues qui m'expliquait en fait que bien soigner les gens, en fait, c'est un investissement. C'est pas une perte d'argent, c'est au contraire faire une société qui marche mieux, donc entre guillemets plus rentable finalement.
Oui, alors de dire ça, on se met dans un système économique et c'est dangereux. C'est pour ça que moi je préfère dire la santé, le coût des maladies, le coût des retraites, tout ça, c'est de la solidarité et la société doit le prévoir et on se met d'accord sur un montant le plus haut possible. Pour défendre le système des retraites, ça intéresse toutes les générations. Moi, je me bats pour mes enfants. Moi, je suis bientôt à la retraite. Je vais l'avoir, la retraite, mais...
T'es sûr ?
Peut-être. Je sais pas, mais plus... Enfin, ça me paraît plus sûr pour moi que pour mes enfants. Et ce qui me fait mettre en colère, c'est d'entendre des jeunes dire « Oh, de toute façon, maintenant, c'est fichu. » Nous, on n'aura pas notre retraite. Non, il faut se battre pour garder notre système. Voilà.
Et voilà les amis, Radio Manif, c'est fini pour aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine manif, vous pouvez réécouter cette émission sur notre site polymixetlavoixoff.com. Avant qu'on se retrouve très bientôt sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut,
terminé. Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant. Keep on pulling, keep on pushing, pushing.
Radio G. www.radio-g.fr.